Et c'est l'heure du national. Bonjour à tous et à toutes, c'est Christiane Campagnon au micro cette semaine pour vous présenter le National. Alors, cette semaine encore, des textes choisis par Clotilde Seille dans les différents journaux du Canada francophone, sauf que c'est une nouvelle voix qui vous les servira. Alors, cette semaine, nous allons notamment parler du patrimoine architectural de Toronto, de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, d'un concert de Debussy donné par un musicien belge à Calgary, de recherches sur la culture autochtone, de reconnaissance des diplômes entre les provinces et même d'un serveur français qui affirme que son mauvais caractère est un trait culturel. Alors, on commence ça avec un texte tiré de l'Express.ca de Lina Fourneau, « La démolition est l'ennemi du patrimoine culturel ». Une ville sans édifice est comme une personne sans mémoire, a cité Gilliott pour illustrer l'importance de la rénovation du patrimoine. Pour cet habitant du quartier de Cabbage Town, on n'a pas à démolir le passé pour préserver notre culture. Gilles ne se définit pas comme un spécialiste, mais comme un passionné d'histoire du patrimoine. À travers les photographies de son quartier, ce salarié des services en français du gouvernement de l'Ontario, conférencier du mois de la Société d'histoire à l'Alliance française, nous a fait découvrir l'importance de conjuguer passé avec avenir. La préservation est une bonne idée qui est arrivée trop tard à Toronto, selon lui. La loi à ce sujet n'a été votée qu'en 1975, et encore, elle a mis du temps à s'installer. Cabbage Town n'est protégé que depuis 2002, alors que celui-ci renferme les édifices les plus historiques de Toronto. Entre 2010 et 2014, ce sont plus de 7000 propriétés historiques qui ont été rénovées, précise Gilliott. La question ici est celle du paysage urbain. La ville est construite selon une harmonie particulière, les bâtiments dépendent des artères où elles se trouvent. Depuis lors, le gouvernement de l'Ontario a mis en place une désignation patrimoniale des édifices. Avant, cela se faisait individuellement. Aujourd'hui, tout est mis en place par district. À Cabbage Town, il y en a trois principaux, par exemple. Cette désignation encouragera au mieux la rénovation des bâtiments, parfois laissés à l'abandon. Pour les habitants, cela représentera également des restrictions. Gilles, qui habite dans un district préservé, témoigne de cela. Pour changer les parties visibles d'un édifice, il faut demander une autorisation à la ville et souvent, c'est refusé. Mais au-delà d'un besoin individuel, la rénovation à Toronto est importante pour garder une trace de ce petit village devenu ville commerciale. Pour le passionné d'histoire du patrimoine, l'urbanisation remonte principalement à l'arrivée du chemin de fer à Toronto dans les années 1850, qui a permis une émancipation de la ville reine. Quand cela a apporté une plus grande densité de population, la ville a connu un réveil trop tardif pour comprendre les enjeux de son patrimoine. Gilliott s'est d'ailleurs engagé à la cause en créant l'Association pour la préservation de Cabbage Town. Pour lui aujourd'hui, il est nécessaire de sensibiliser les habitants de leur quartier pour leur permettre de l'apprécier et de les protéger. Toujours dans l'Express.ca, danser sur les mots pour la journée du livre. Le 23 avril est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. L'événement a été souligné samedi soir par une célébration de la parole rehaussée par la gestuelle organisée par l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Danser sur les mots a réuni les textes de 5 auteurs et 3 membres du groupe de du groupe Adidas à la Galerie Pierre-Léon de l'Alliance française. On a rappelé que la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur a été créée par l'UNESCO en 1995 et que la date du 23 avril a été choisie parce que ce jour-là, en 1616, disparaissaient Miguel de Cervantes et William Shakespeare. Le 23 avril est aussi la fête de Saint-Georges, patron des Catalans. Depuis 1923, les éditeurs et libraires de Barcelone offrent une rose à quiconque achète un livre le 23 avril. Cette tradition s'est depuis répandue chez plusieurs libraires du Québec. Notre chroniqueur Paul-François Sylvestre a brossé un portrait du droit d'auteur au Canada en expliquant comment fonctionne la chaîne du livre, auteur, éditeur, imprimeur, distributeur, libraire, bibliothèque, lecteur. Plus d'un intervenant à sa part du prix de vente. Si l'auteur touche le plus souvent des droits de 10%, il a aussi accès à des droits de prêt public pour l'utilisation de ses livres dans les bibliothèques publiques et à des droits dits « copyback » s'il y a des photocopies de ses œuvres dans les institutions scolaires du Québec. Nafé Faïgou de St. Catharines a lu un extrait de son recueil de poésie intitulé « Masques ». Originaire du Tchad, elle porte plusieurs masques – poète, nouvelliste, essayiste, traductrice et critique littéraire. Didier Leclerc s'est fait connaître par un roman « Toronto, je t'aime » qui a reçu le prix Trillium en 2000. Aujourd'hui, sa vie pourrait s'intituler « L'écriture, je t'aime ». Il a lu « La dame au pullover rouge », une nouvelle qui met en scène une femme qui a des dons spéciaux, dont celui de prédire que son vis-à-vis va devenir écrivain. Ariane M. Matt publie des poèmes et nouvelles depuis au moins 20 ans. Elle a livré un texte humoristique sur une locataire qui trouve un truc pour ne pas avoir à cracher le loyer du mois. Hectorine a plus d'un tour dans son sac ou sa brassière. Les poèmes de Gabriel Osson sont souvent peuplés d'êtres entre deux ombres. Il affectionne le clair-obscur et les deux côtés d'une même médaille. C'est le cas dans le poème intitulé « Il était une fois l'amour ». On pourra croire que Paul Savoie pose un métronome sur la page blanche qu'il couvre de mots au rythme et aux sonorités qui ne sont pas sans rappeler la musique. Son poème notait qu'il y a au bout du geste une fin de geste où le souffle se fait déchirure. Trois membres du groupe Adidas n'étaient pas à bout de souffle, loin de là, pour accompagner certaines lectures. Adrienne Medgo, Hélène Lee et Céla ont montré comment la parole et la gestuelle peuvent brillamment s'harmoniser. Danser sur les mots a pu se tenir grâce à l'appui de plusieurs partenaires. L'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, l'Association nationale des éditeurs de livres, la librairie La Mosaïque, l'Alliance française de Toronto et la radio Choc FM qui a diffusé la soirée en direct. Et sur cette rêverie de Debussy, on s'en va en Alberta et il y a pourtant un lien. L'art francophone à Calgary, un article tiré de Le Franco, un texte de Sabine Verzier. Afin de célébrer les 100 ans du pianiste Claude Debussy, un concert était organisé le dimanche 25 mars par l'Alliance française de Calgary au C-Space. Terminant la saison musicale d'artistes francophones, le pianiste belge Olivier de Spiegeler a présenté à un public de 90 personnes un récital commenté. Debussy est un révolutionnaire, déclare Olivier de Spiegeler, un trait peut-être propre aux artistes francophones, comme la ville de Calgary a pu le témoigner ces derniers mois au C-Space. En plus de célébrer les 100 ans de la mort de l'artiste au jour près, le concert s'inscrit dans le mois de la francophonie en Alberta. Je pense qu'il est essentiel de promouvoir les artistes francophones à l'étranger, en particulier les compositeurs et les interprètes qui parlent le français, langue universelle et musicale par excellence, explique le pianiste belge. Mais ce n'est pas seulement la musique que l'artiste a partagée ce soir-là. C'est également de la poésie à travers les deux poètes français Paul Verlaine et Sully Prudhomme. C'est à travers un récital commenté où le musicien présente le morceau avec quelques mots sur l'ambiance de l'œuvre et son inspiration que le public peut se plonger dans chaque morceau. La musique classique française ou européenne se marie parfaitement à la littérature et à la poésie française dans son rythme, sa musicalité et son inspiration, dit-il. En plus du concert, un atelier a été organisé le jour suivant pour une classe de 6e et de 5e du lycée Louis Pasteur dans le cadre de leur cours de musique. 40 élèves ont ainsi pu assister à un après-midi interactif sur Debussy, rythmé entre lecture de poèmes et interventions au piano. Cette initiative est une première pour le lycée et pour l'Alliance française. Cette opportunité a été appréciée à la fois par les élèves et par Olivier de Spiegeler, lui-même, témoignant « J'ai été particulièrement frappée par la gentillesse, le respect et l'attention manifestée par les élèves. » Mylène Lourdin, coordonnatrice en communication culture à l'Alliance française de Calgary, constate le succès de sa saison musicale francophone. La suite de l'année sera centrée sur la découverte littéraire et cinématographique Confitel. Entre la tournée d'auteurs de BD comme Yvan Agalbé et les projections de films de Thomas Covin, ainsi que le documentaire de J.R. et Agnès Barba, les œuvres francophones sont mises à l'honneur sous toutes les formes pour le printemps 2018. Dans un article, un éditorial en fait, tiré du journal de Colombie-Britannique, laliberté.ca, par Bernard Bockel. Dans notre monde canadien, où l'accent est mis sur le respect de la diversité pour favoriser le projet social que nous sommes tous égaux en droit, on ne saurait badiner avec la discrimination. Tout un arsenal de mesures a été mis en place pour lutter contre les diverses formes de discrimination raciale, sexuelle, ethnique, religieuse. À Vancouver, un Français cherche à plaider la discrimination culturelle. En Colombie-Britannique, quand une personne s'estime victime de discrimination, elle peut faire appel au tribunal des droits de la personne qui décide de la recevabilité de la plainte. La plainte du Français a fait l'objet d'une couverture médiatique internationale au moment où elle a été jugée recevable. Le quotidien français Le Figaro a présenté l'affaire ainsi. Un serveur français licencié par un restaurateur canadien pour agressivité envers ses collègues a plaidé que son attitude n'était pas due à un quelconque manque de politesse, mais à sa culture française. Guillaume Ray, le plaignant, affirme avoir été licencié en raison de la perception que sa culture française le faisait paraître agressif. Car un Français aurait tendance à se montrer plus direct et plus expressif dans la pratique des standards élevés appris dans l'industrie hôtelière française. Ce qui revient à dire en gros, c'est quand même pas de ma faute si vous avez des idées reçues sur les Français et que vous, les Canadiens, faites les gentils-gentils pour compenser un manque de compétences professionnelles. L'employeur avait demandé le rejet de la plainte au motif que l'ex-employé avait contrevenu au code de bonne conduite de l'entreprise. Autrement dit, on veut bien que tu sois Français Et on sait bien que nos clients t'apprécient, mais c'est quand même pas des raisons suffisantes pour te mettre tes collègues à dos au point où ils ne veulent plus travailler avec toi, tellement tu es malpoli, agressif et irrespectueux. Le Tribunal des droits de la personne de Colombie-Britannique a eu l'intelligence de ne pas rejeter la plainte qui fera l'objet d'une audience à une date ultérieure encore inconnue. Le moment venu, Guillaume Rey, selon toutes les apparences, doté d'un caractère fort, devra expliquer ce qui, dans son héritage français, provoque une conduite que les gens peuvent mal interpréter dans un environnement professionnel. Sans vouloir préjuger du talent de plaideur de Guillaume Rey, qui veut dire roi en espagnol, on voit mal comment un héritage culturel pourrait handicaper une personne au point de justifier ou tout simplement d'excuser son comportement. En effet, si on choisit de tenter sa chance dans un autre pays, c'est bien parce qu'on espère trouver mieux ailleurs. Ou à tout le moins, que l'aventure à l'étranger, voire dans une autre province, donne assez de recul sur soi pour découvrir des dimensions de sa personnalité mal cernable dans sa baignoire culturelle d'origine. En ce qui concerne la France, la patrie autoproclamée des droits de la personne est une ancienne tête d'empire qui a un lourd passif colonial, justifié au nom d'une mission civilisatrice. On voudra bien admettre que pour mener à bien pareille entreprise sur le long terme, les premiers à subir le lavage de cerveau des élites dominatrices ont été les Français eux-mêmes. Leur faire croire qu'ils étaient les meilleurs a eu pour résultat un effet pervers, celui de s'arroger un complexe de supériorité morale dont certains sont encore affligés. Ceci souligné, le Canada de la diversité est assez fort pour absorber tous les tempéraments venus d'autres baignoires culturelles.
La France, on l'aime, ou alors on la quitte. Aux vacances prochaines, il ira en Égypte. On est sûr de bronzer, vu le prix que ça coûte. Alors là, pas de doute, il sait bien ce qu'il veut. D'ailleurs, il est très clair, il faut ouvrir les yeux. Mais fermer les frontières, c'est rien que des feignants. Ça veut jamais bosser, mais ça vole pourtant le travail des Français. Mais quand on voit ce qu'on voit, puis qu'on est réaliste, ben lui, il en revient pas d'être aussi peu raciste. Il est souvent même assez tolérant. La preuve, il a un pote coréen comme un accent. Mais là, c'est l'exception qui confirme la règle. On serait bien dans la mer. Ils étaient tous français dans l'équipe de France. Et comme il est inquiet chaque fois qu'il y pense, cela bien entendu qu'il faut pas les confondre. Ils sont les bienvenus pendant la Coupe du Monde. Et quand on voit ce qu'on voit, et puis quand c'est ce qu'on sait, bah lui il en revient pas d'avoir toujours pensé. Alors bien sûr, et puis c'est évident qu'une femme s'est fait pour garder les enfants. Pour être voilée, lui la sienne, c'est vrai qu'elle est libre au foyer. Mais entre le tchador et puis les kamikazes, c'est toujours la goutte d'or qui fait déborder le vase. Et là c'est la panique, on dira ce qu'on veut, c'est pas très catholique de croire autant en Dieu. Mais quand on voit ce qu'on voit et puis qu'on vit ce qu'on vit, ben lui il en revient pas de l'avoir toujours dit. Et pas du tout facho. Mais que fait la police avec tous nos impôts? Cela dit, faut ce qu'il faut. Décider, il en a, lui, il vote à chaque fois. C'est la démocratie, il a le droit de s'exprimer. N'en déplaise aux gauchistes, aux femmes et aux PD. Puis comme il est d'accord que la vie c'est sacré, il est pour la peine de mort et contre l'IVG. Mais quand on voit ce qu'on voit et puis qu'ils font ce qu'ils font, ben lui, il n'en revient pas. Il n'en revient pas d'avoir pas tout compris. Tous les hommes sont frères, c'est la démocratie. Tous les hommes sont frères. Mon Dieu, mais quelle famille!
Agnès Bill, quand on voit ce qu'on voit. Et on poursuit maintenant avec un texte tiré de l'eauvive.ca. La cité universitaire francophone s'autochtonise. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le concept d'autochtonisation ou d'indigénisation ne date pas d'hier. Il s'agit d'initier les Canadiens aux savoirs autochtones, que l'on pense à la spiritualité, à la tradition orale, au rapport à la nature et de stimuler une prise de conscience collective des torts historiques et actuels dont les Premières Nations sont victimes. Pourtant, la littérature scientifique traitant de l'autochtonisation au Canada est encore largement anglophone. Qui sait pourquoi les universitaires québécois ou francophones en situation minoritaire ne s'y sont pas lancés avec le même enthousiasme que leurs collègues du Canada anglais. Quoi qu'il en soit, ça ouvre la voie pour ceux qui cherchent à franciser la question. Depuis sa fondation en 2005, le Centre canadien de recherche sur les francophonies en milieu minoritaire, le CRFM, de l'Université de Regina, n'a cessé de tenter de rapprocher les francophones avec les Premières Nations ou les Métis. Les tables rondes itinérantes organisées entre 2005 et 2009, en partenariat avec l'Assemblée communautaire fransaskoise et la Saskatchewan Métis Federation, demeure une des initiatives dont le centre est le plus fier. Une décennie plus tard, le nouveau directeur du CRFM, Jérôme Melançon, en collaboration avec ses collègues de la Faculté d'éducation Fadila Boutouchan et Heather Phillips, viennent de convier les chercheurs, pédagogues et acteurs communautaires à un colloque de 3 jours intitulé « Perspectives d'autochtonisation chez les francophones. Préparer un avenir commun dans l'Ouest canadien ». Cet événement, qui s'est déroulé à la Cité universitaire francophone du 8 au 10 mars 2018, a pu bénéficier de nombreuses sources de financement, dont le Conseil de recherche en sciences humaines, le CRSH. Pendant le colloque, on examina l'enseignement des savoirs autochtones à l'école et à l'université, ainsi que les difficultés auxquelles sont confrontés les chercheurs désirant se prévaloir des méthodologies autochtones, notamment en ce qui a trait à l'oralité. Le colloque bénéficia de la présence de plusieurs chercheurs expérimentés, ainsi que de 2 récipiendaires du prix du gouverneur général pour l'enseignement de l'histoire, Léa Lang, ainsi que Naomi Fortier-Fresson. Il y eut aussi plusieurs témoignages personnels, ainsi que des cérémonies à caractère spirituel. Les organisateurs envisagent une publication basée sur le colloque, étant donné le manque de ressources en français sur le thème de l'autochtonisation, l'ouvrage ne manquera pas de trouver des lecteurs. Par ailleurs, de nombreuses interrogations ont été lancées au fil des rencontres. Surtout, l'on se demanda maintes fois pour qui et pourquoi pratiquait-on l'autochtonisation? En d'autres mots, comment faire en sorte que cela ne devienne pas un véhicule pour des carriéristes ou des do-gooders professionnels? Vaste programme. Bref, ce programme du CRFM a été très stimulant, surtout en ce qui a trait aux questions suscitées. C'est la marque d'un événement réussi. Il y aura certainement une suite. Tiré de l'eau vive.ca, Karen Foggen, une aventurière des Great Sand Hills. Dans ma dernière chronique, j'ai décrit les Great Sand Hills du sud-ouest de la province avec son mélange de prairies et de dunes de sable. La région est un écosystème hybride unique en son genre. Maintenant, nous allons rencontrer Karen Foggen, une athlète et une aventurière originaire de Great Sand Hills. Karen a grandi sur un ranch parmi les dunes, les cactus et le bétail. Jeune fille, elle aimait beaucoup courir sur le sable et sa passion de la course ne l'a pas lâchée. Même aujourd'hui, à l'âge de 53 ans, elle jouit encore de son sport. En tant que participante à des courses aux distances extrêmes, elle vit des aventures inoubliables. Par exemple, le mois passé, Karen a participé à la Alps to Ocean, une course de 196 000 ou 316 km. Pendant 7 jours, elle devait courir environ 30 000 ou 50 km par jour, et cela dans les montagnes de la Nouvelle-Zélande. De plus, la troisième journée était particulièrement exigeante parce que les participants devaient courir 52 000 ou 85 km. Mais attendez, ce n'est pas tout. Chaque participant devait aussi porter sa nourriture et son équipement de camping dans un sac à dos. Lors de mon entretien avec Karen, je lui ai demandé qu'est-ce qui pouvait bien l'amener à vouloir courir pendant 7 jours. Habituée à ce genre de questions, elle a souri et sans hésitation a répondu « J'adore ça ». Son passe-temps lui permet également de voyager et surtout au Canada et aux États-Unis, mais pour la première fois, cette fois-ci, en Nouvelle-Zélande. Elle ajoute qu'elle se sent en paix quand elle court et que l'exercice lui donne plus d'énergie et diminue son stress. Quand elle participe à des courses, Karen a également la chance de mieux connaître non seulement le Canada, mais également d'autres pays. Malgré son entraînement rigoureux et son souci de l'exercice, Karen fumait autrefois, une habitude qu'elle a cessée depuis 13 ans. Quand elle a arrêté de fumer, elle s'est promise de compléter un marathon. Elle a tenu sa promesse et a complété depuis 20 marathons. Mais en plus, elle a aussi couru des courses de plus de 100 000 ou 160 kilomètres. Et voilà qui nous mène à la fin de cette première partie de l'édition d'aujourd'hui du National. On se retrouve après la pause avec d'autres textes tirés des journaux et des sites web du Canada francophone.
On va tellement loin.
c'était « Cœur migratoire », une chanson de Catherine Durand sur un texte de Tristan Malavoie. Et nous, on poursuit avec l'hebdomadaire francophone du Grand Nord canadien et un texte de Denis Laure. La migration interprovinciale a des ratés en matière de reconnaissance de diplômes. Alors que les territoires du Nord-Ouest manquent de travailleurs spécialisés, le manque de reconnaissance de diplômes obtenus à l'extérieur s'avère problématique. Valérie Leclerc a obtenu au Québec un diplôme de thérapeute en relations d'aide après 3 ans d'études et un cheminement personnel. Son association professionnelle est la Corporation internationale des thérapeutes en relations d'aide du Canada, un organisme qui, malgré son titre un peu pompeux, ne semble pas avoir d'assises ailleurs qu'au Québec. Valérie Leclerc a eu un bureau de mai 2016 à mai 2017 à la clinique intégrative Gaïa à Yellowknife qu'elle a dû fermer. « J'ai eu peu de clients, dit-elle, beaucoup d'annulations. J'ai perdu énormément d'argent. » La raison? Au territoire, les régimes d'assurance médicale ne remboursent pas, comme au Québec, ce type de soins, ce qui rebute les travailleurs. Les règlements des assurances varient selon les provinces, explique le coordonnateur du CITRAC, Jean-Pierre Bellerive. Au Québec, les assureurs classent les soins de thérapie en relation d'aide dans la catégorie « naturothérapie ». Or, cette catégorie n'existerait pas au TNO et les reçus de Mme Leclerc n'y sont pas valides. Les démarches de Valérie Leclerc, auprès des assureurs notamment, n'ont jusqu'à maintenant rien donné. « C'est dommage, dit-elle, parce que ça manque ici de l'aide. » Elle a dû troquer sa profession pour suppléance à l'école. Cependant, sa situation pourrait un jour évoluer, alors qu'ailleurs qu'au Québec, sa pratique est associée au counseling et que ce type de soutien est couvert par le plan d'aide aux employés du gouvernement ténois. Dans un autre ordre d'idées, il semble que l'absence d'accréditation au territoire du Nord-Ouest de certaines écoles hors frontières empêche les travailleuses de garderie qui ont obtenu leur diplôme de recevoir un montant adéquat de la subvention pour le personnel de la petite enfance. La subvention pour le personnel est un programme du ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, le MECF, dont un des objectifs est d'attirer de nouveaux professionnels dans le secteur de l'éducation de la petite enfance. Selon le formulaire en ligne du site du gouvernement, daté de juin 2016, une personne travaillant dans une garderie et ayant un certificat en petite enfance peut gagner 200 $ de plus par trimestre que celle qui n'en a pas, selon le nombre d'heures travaillées. Un ou une diplômée gagnera plus encore et une personne avec un grade universitaire encore davantage. Mais il faut tout de même que ces attestations soient reconnues. Geneviève Potvin travaille à la garderie Plein Soleil. Elle a obtenu une attestation d'études collégiales en garderie au collège CDI à Québec. Il y a des collèges CDI partout au Canada, souligne Geneviève Potvin, mais on m'a dit que mon collège ne figurait pas sur la liste des établissements agréés du gouvernement. Madame Potvin dit avoir le même salaire qu'une personne ayant une formation, sauf que sa prime est moins élevée. La directrice de la garderie Plein Soleil, Rachel Franqueur, vit le même problème. Elle a obtenu son diplôme de technicienne en service de garderie en 1999 au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, mais cet établissement n'est pas non plus sur la liste. La liste à laquelle elle fait référence est la liste d'établissements d'enseignement agréés et elle est établie par le gouvernement fédéral. Si le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ne s'y trouve effectivement pas, 3 collèges CDI du Québec y sont, mais pas celui de Québec où Geneviève Potvin a étudié. Il n'y a pas de formation en petite enfance au territoire du Nord-Ouest, souligne la directrice de Plein Soleil, hormis au collège Aurora, où c'est assez nouveau. Il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée au TNO et c'est ridicule qu'ils ne nous reconnaissent pas. Madame Franqueur souligne que le problème existe dans les deux sens, le Québec ne reconnaissant pas ses années d'expérience hors de la province. Rachel Franqueur affirme avoir parlé de cette problématique à la sous-ministre Sylvia Henner, qui lui aurait dit qu'il existe au territoire un processus de reconnaissance des diplômes, une information qui aurait été contredite par la suite par un agent du MECF. Madame Franqueur se plaint en outre de n'avoir jamais eu de suivi sur ses demandes de reconnaissance malgré 2 demandes. Son dernier courriel daterait de septembre 2017. Mais le MECF a fait savoir que le GTNO est signataire des différentes ententes permettant de poursuivre ici une carrière ou une formation, comme l'accord de libre-échange canadien, l'ALEC, qui permet à un travailleur d'une autre province ou territoire de venir travailler ici sans examen ou formation supplémentaire, le programme du Sceau Rouge et pour d'autres pays, le programme des candidats. En outre, grâce à une entente avec le service d'évaluation des diplômes étrangers de l'Alberta, le GTNO offre la reconnaissance de diplômes obtenus à l'étranger à tarif réduit. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a lancé l'an dernier la stratégie sur l'immigration 2017-2022, la première de son histoire. On y fait état d'un plan pour amener plus d'immigrants à travailler et à investir ici. La reconnaissance des diplômes est un défi majeur pour les immigrants, considère le directeur général sortant du CDETNO, Antoine Gagnon. C'est presque du cas par cas. Chaque cas est unique. On essaie d'outiller les gens, on fait du lobbying et de l'éducation. Mais ce n'est pas une priorité pour le CDETNO parce qu'on ne peut pas y faire grand-chose. À la connaissance de M. Gagnon, la situation au territoire n'est ni pire ni meilleure qu'ailleurs au Canada.
Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois. Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois. Les gens qui s'occupaient de la santé publique ont crié au scandale quand je leur ai dit ça. Je les invitais donc à venir très vite participer à cette expérience avec moi. Une fois que nous eûmes effacé toute forme de modération, nous fûmes en émoi de constater qu'au lieu de ces vilaines formes étaient nées les courbures les plus belles qui soient. Et les apothicaires ont repris tous en cœur ce qu'elle est belle quand t'as bu, ce que t'es belle quand on boit. Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je bois. Et ce dont la morale était plutôt statique m'ont dit qu'on ne pouvait traiter l'autre comme ça. Je les invitais donc à venir sans réplique participer à cette expérience avec moi. Une fois envolés les préceptes énormes qui dictaient nos conduites, nous fûmes sans émoi de constater qu'au lieu de ce visage mort n'était née la figure la plus douce qui soit. Et les gens pleins d'éthique ont repris plein d'émoi ce qu'elle est belle quand t'as vu, ce que t'es belle quand on voit. Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois. Et ceux qui s'occupaient du savoir esthétique, ceux qui se demandaient au fait le beau c'est quoi, m'ont dit que la beauté n'est jamais éthylique, mais venez donc tenter l'expérience avec moi. Une fois envolée toute définition de ce qu'est la beauté, nous fûmes sans émoi de voir que tu avais plein de conversations et même des plus enrichissantes qui soient. Et les intellectuels ont repris dans la joie ce qu'elle est belle quand t'as vu, ce que t'es belle quand on voit.
C'était « Est-ce que t'es belle » d'Alexis Hachka. On poursuit cette fois-ci avec, ce n'est pas les diplômes qui ne circulent pas bien entre les provinces, c'est plutôt l'alcool. On se déplace au Nouveau-Brunswick avec l'Acadie Nouvelle, un texte de François Gravel. Les lois provinciales qui limitent la possibilité de s'approvisionner en alcool dans les provinces où il en coûte moins cher la bouteille ont la bénédiction de la Cour suprême du Canada. Nous n'avons donc pas fini de voir nos policiers faire le pied de grue dans les stationnements de dépanneurs québécois afin de surveiller les véhicules avec une plaque d'immatriculation du Nouveau-Brunswick. La décision de la Cour suprême est décevante. Nous vivons, après tout, dans un seul et même pays. Il est incroyable qu'en 2018, les gouvernements provinciaux puissent interdire à leurs concitoyens de rapporter certains biens. La loi constitutionnelle de 1867 garantit pourtant le commerce interprovincial sans barrières. Mais il y a des nuances dont il faut tenir compte, tranche le plus haut tribunal au pays. En gros, une loi dont l'unique objectif serait d'interdire le transport de produits provenant de l'extérieur de la province serait inconstitutionnelle. C'est toutefois une autre histoire quand une disposition de la loi se retrouve à entraver le commerce alors qu'il ne s'agit pas de son but principal, ont indiqué à l'unanimité les magistrats. Dans ce cas-ci, le Nouveau-Brunswick tient à superviser l'approvisionnement et l'utilisation des boissons alcooliques sur le territoire pour des raisons de santé publique. À cette analyse des juges, ajoutant que Fredericton tient aussi, et peut-être même surtout, à assurer la survie d'une vache à lait. Aux yeux de la Cour suprême, cette volonté du Nouveau-Brunswick d'encadrer la circulation et la vente d'alcool est légitime. Le fait que cela mène à l'arrestation d'automobilistes sur le pont J.C. Van Horn n'est qu'une malheureuse conséquence, mais ne peut être considéré comme étant l'équivalent de tarifs douaniers. Dans le fond, la Cour suprême nous rappelle que le Canada n'est pas un pays unitaire comme la France, par exemple. Nous sommes une fédération de provinces et de territoires qui se sont dotés d'un gouvernement national. Le principe du fédéralisme n'impose pas une vision précise de l'économique, peut-on lire dans la décision. On sent aussi dans celle-ci que les juges ont craint des conséquences majeures s'ils avaient donné leur appui à Gérard Comeau. Du jour au lendemain, les monopoles de la couronne auraient été fragilisés et pas seulement dans le domaine de la vente d'alcool. Des quotas, des systèmes de gestion de l'offre et même, pourquoi pas, des programmes de subvention aux entreprises, à la culture et bien plus encore auraient pu être contestés devant les tribunaux comme étant un frein à un commerce libre. La Cour suprême a donc jugé que ce n'était pas à elle de transformer le fonctionnement de la Fédération canadienne en imposant un régime de libre-échange absolu au pays. Elle a eu peur d'ébranler les institutions en place et a préféré laisser les gouvernements y aller de changements graduels plutôt que de tout chambouler d'un coup. Et tant pis pour les buveurs de bière. La croisade de Gérard Comeau aura toutefois eu ça de bon que cet enjeu est désormais à l'avant-plan. Le ministre Roger Melançon a confirmé dans nos pages que son gouvernement songe à augmenter la quantité d'alcool qu'un individu peut acheter dans une autre province. Il pourrait aussi donner le feu vert à de nouveaux modes d'achat en ligne. Tout n'est donc pas perdu pour M. Comeau. Nous l'encourageons toutefois à ne pas retenir son souffle. Le gouvernement provincial est dans son droit de préserver le statu quo, aussi archaïque soit-il. Le gouvernement doit montrer qu'il a entendu les critiques de sa population en reconnaissant que ses règles sont dépassées. Il doit moderniser la vieille loi sur l'alcool au Nouveau-Brunswick. Celle-ci date des années 1920 et comprend du charabia d'une autre époque. On y précise que l'achat d'alcool à l'extérieur de la province est limité à une bouteille de boisson alcoolique ou une douzaine de chopines de bière tout au plus. Dans la version anglaise de la loi, on parle de pint ou de pints. Le consommateur moyen ne sait pas exactement ce que cela signifie. Basé sur la taille des chopines à l'époque, cela pourrait vouloir dire qu'il est légal d'acheter plus ou moins 20 bières. Acheter donc une caisse de 24 au Québec et la ramener en Acadie serait un acte illégal. Dans les faits, il semble que les policiers tolèrent généralement le transport de 4 à 6 caisses de 24 bières par véhicule. Si le gouvernement provincial tient à maintenir à tout prix le régime actuel, la moindre des choses est d'au moins clarifier les règles pour tout le monde. Les devinettes ont assez duré. Il faut modifier la loi provinciale et indiquer en termes clairs, en langage de 2018, ce qui est légal et ce qui est interdit.
est infini. Plus je pense me rapprocher, plus je m'éloigne. Comme une course sans fin au bord d'un ravin.
C'était Souvenirs en mitraille de Dumas et nous on poursuit avec un texte de lavoixacadienne.com, un texte d'Alexandre Roy. Toutes les occasions sont bonnes pour promouvoir l'utilisation de la langue française, que ce soit dans le cadre des activités de tous les jours ou dans le cadre d'événements d'envergure comme le Forum local de français pour l'avenir. C'est précisément ce que Victoria Gibbs, originaire de Little York à l'Île-du-Prince-Édouard, a découvert lorsqu'elle a participé à son premier forum l'an dernier. Je pense que pour la plupart des élèves à travers le pays, le français est une langue utilisée en salle de classe et donc elle est associée à l'école et au travail, a partagé Mme Gibbs, élève de 11e année à l'école secondaire de Charlottetown rurale. Ma participation à Français pour l'avenir m'a démontré que l'on peut vivre en français, se faire des amis, sortir et créer des souvenirs inoubliables, le tout entièrement en français. Cette année, près de 300 élèves de 10e et 11e année provenant de partout dans la province participeront à une journée complète d'ateliers interactifs et d'activités divertissantes en français. Cela comprend l'exploration de la participation citoyenne, les styles de communication, le développement identitaire, l'entrepreneuriat, la danse hip-hop, l'importance du jeu, l'improvisation, le leadership et plusieurs autres. L'événement aura lieu de nouveau cette année au campus du Collège de Lille et du Holland College, au centre-ville de Charlottetown. L'invité spécial cette année est Rachel Gauthier, qui est originaire de Summerside et qui a appris le français comme élève dans un programme d'immersion. À l'âge adulte, elle a découvert ses racines acadiennes et son bilinguisme lui a permis de rebâtir des liens avec son héritage. Sa thèse de doctorat qu'elle a faite à l'Université de Moncton porte sur le développement identitaire des jeunes dans les écoles françaises en milieu minoritaire. Nous avons hâte de recevoir les élèves d'Expression française le 2 mai prochain. Ceux-ci auront l'occasion de participer à une journée complète d'expériences interactives leur permettant d'explorer le français à l'extérieur de la salle de classe, a souligné Maxime Bourgeois, coordonnateur du forum local de Charlottetown. « Ma participation au forum a complètement changé ma conception de mon avenir », a ajouté Victoria Gibbs. « J'encourage tous ceux et celles qui ont la chance de prendre part au forum de sauter sur l'occasion. C'est un événement à ne pas manquer. » Le Français pour l'avenir vise à promouvoir le bilinguisme officiel du Canada et les avantages d'apprendre et de communiquer en français auprès des élèves de la 7e à la 12e année au Canada. Un texte maintenant tiré de le journal lenord.com, la mise à jour du guide Ulysse de Toronto, signée Nathalie Prézeau. Elle habite depuis 25 ans à Toronto, qu'elle fouille de fond en comble à la recherche du beau, du pratique et de l'insolite. Et pourtant, Nathalie Prézeau, chroniqueuse à l'Express et auteure de 4 guides de sortie en famille et de marche, se perçoit comme une éternelle touriste. Après Toronto Fun Places, Toronto Urban Strolls, For Girlfriend 1 and 2, et Toronto Street Art Straws, c'est à elle que la fameuse maison d'édition Ulysse a confié la tâche de mettre à jour son guide Toronto et les chutes du Niagara. C'est un guide pour les touristes que tu gardes dans ta bibliothèque et que tu prêtes à tes amis de passage en ville, dit Nathalie. Tout en suivant le cap donné par Ulysse, elle a réussi à apporter sa griffe à l'ouvrage. Elle met à jour des circuits qu'elle a créés. Chez Ulysse, le travail était différent. Quand on s'insère dans une série, on a déjà un squelette et il ne reste plus qu'à mettre de la viande dessus, souligne-t-elle. De plus, l'approche d'Ulysse n'est pas forcément la sienne. Les données historiques occupent une place plus importante alors que Nathalie a plus le goût de la nouveauté. Pour Nathalie, une ville ne finit jamais de se découvrir. Une ville, c'est organique, vivant, en continuelle évolution. Ainsi, nous sommes tous amenés à être surpris en balade, comme les touristes. Ici, être touriste, c'est un état d'esprit, une philosophie de vie, c'est qu'on prend le temps de regarder ce qui nous entoure. Une éternelle touriste, mais aussi une amoureuse de Toronto. Toronto souffre de ce préjugé de ville où on ne fait que travailler. J'ai toujours voulu convaincre les gens, notamment les Québécois, que Toronto est une belle ville où il fait bon vivre. Si vous êtes en quête d'une nouvelle balade, Nathalie Prézeau peut vous conseiller d'errer autour de Corktown Common, le parc situé à l'ouest de Don Valley. À surveiller également les marches urbaines à James Walk à partir de mai, 250 marches organisées par des bénévoles et les promenades guidées en français History Tour auxquelles participe Nathalie. Et c'est ce qui met fin à cette édition du magazine Le National. C'était Christiane Campagna qui vous lisait des textes sélectionnés par Clotilde Seille avec comme soutien à la technique Mathieu Tessier. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.